Fred at School Show. Fred at School Show.
Vous êtes sur Fred Flemme Radio, Bénédicte Pro, aujourd'hui avec vous pour la toute première émission française réalisée dans le cadre du projet Fred at School. Autour du film Illégal d'Olivier Masset de Passe. Alors avant de parler du film, on va rappeler ce qu'est le projet Fred at School. C'est un programme pan-européen d'éducation à l'image et d'initiation à la radio qui s'adresse à des classes de collégiens et lycéens de 14 à 16 ans, partout en Europe donc. Le projet est instigé par Fred Radio, qui est non seulement la radio des festivals, mais aussi tout simplement la radio de l'expérience cinématographique, du cinéma qui se partage, du cinéma vivant. Le projet est financé par le programme média de la Commission européenne. Il s'articule autour de 4 films, choisis parmi tous les semi-finalistes au prix lu du Parlement européen depuis sa création. C'est-à-dire que nous travaillons autour d'une sélection d'œuvres de très belle qualité, mais aussi très actuelles, dont les thèmes intéressent tous les Européens. Autour de ces films, des activités de toutes sortes sont proposées, notamment des activités multimédia, qui commencent en classe, mais reposent aussi sur une démarche de découverte autonome, assez volontaire, de la part de l'élève. L'idée étant d'encourager chez l'élève le développement d'un sens critique propre, de ne pas le guider dans sa perception des films, mais au contraire de le laisser se faire lui-même un regard. Le dialogue initié en classe sur chaque film donne lieu à la production de clips audio, conçus comme de petites émissions radiophoniques, mais les élèves peuvent aussi prolonger ce dialogue à l'envi par des échanges avec tous les autres jeunes européens qui participent au projet, notamment sur les réseaux sociaux. C'est même un des traits les plus intéressants du projet Fred at School, le fait qu'il repose sur des outils et des supports modernes que les jeunes pratiquent volontiers. Cela favorise la démarche volontaire dont on parlait et constitue aussi une sorte d'apprentissage d'un usage créatif et constructif de ces outils et interfaces. Une des idées principales derrière le programme Fred at School est donc d'écouter les jeunes, de comprendre leurs opinions, leurs réactions. En plus de leur faire réaliser des clips audio sur chaque film, nous collectons aussi leur avis sur le cinéma et les films individuels par le biais de questionnaires qui vont nous permettre à terme de mieux comprendre les jeunes Européens, leurs points communs, leurs différences. Donc ce projet a aussi des fins d'études. L'objectif à terme est d'étendre Fred at School à toute l'Europe. Cette année, pour cette première édition, cette édition pilote, il réunit déjà l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Croatie, la Roumanie, l'Islande et donc la France. Alors nous avons pour cette première édition, du côté de la France, 4 écoles différentes, donc 6 classes au total, qui participent au projet. Il y a d'abord le lycée général Georges Brassens à Paris, mais il y a par exemple un collège, le collège Pablo Picasso de Montfermeil. Toujours en banlieue, il y a un lycée qui cette fois est un lycée professionnel, le lycée professionnel Jean-Pierre Timbaud d'Aubervilliers, où là nous avons 2 classes, 2 petites classes de 10 élèves chacune, qui sont composées entièrement de garçons, qui se sont spécialisés dans la mécanique automobile. Donc là on a quand même un éventail d'études intéressants, complété par les élèves du lycée Saint-Charles de Chalon-sur-Saône en province, donc en Bourgogne. Nous sommes à présent en ligne avec Madame Agi Souleymane qui s'est occupée de relayer le projet Fred at School pour le lycée professionnel Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers. Bonjour Madame Agi Souleymane.
Bonjour Bénédicte.
Alors je voulais savoir ce qui vous avait intéressé dans le projet Fred at School et pourquoi vous aviez accepté d'y participer.
Alors moi ce qui m'a surtout interpellée, c'est que j'ai commencé cette année avec un projet qui s'appelle Lycéens au cinéma, avec cette même classe de CAP français mécanique auto. Et donc je me suis rendu compte lors de la projection du premier film de Lycéens au cinéma, c'était un film des années 60, et ils n'ont pas réussi à accrocher, c'était quand même compliqué. Et quand j'ai entendu parler du projet Fred at School, j'ai entendu dire que c'était des projets plutôt, enfin des films contemporains. Je me suis dit qu'il était possible de raccrocher ces films contemporains, la vision contemporaine des réalisateurs et puis surtout le jeu des acteurs à notre époque, à un sujet de société. Et puis je me suis dit que c'était intéressant aussi de le lier au programme.
Comment les élèves ont-ils accueilli l'initiative et comment s'est passée la séance? Comment ont-ils accueilli le film?
Alors, dans un premier temps, j'aurais présenté le projet Fred at School à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Instagram et Twitter. Et les élèves ont été vraiment très demandeurs et très réceptifs au fait que ce soit un projet qui touche divers établissements et puis divers pays d'Europe. Dans un second temps, il y a eu la projection. Et justement, lors de cette projection, les élèves ont été davantage touchés par les réactions des protagonistes du film que finalement par l'histoire, en fait. Ils ont une réaction plutôt humaine. Ils ont été très touchés par les mauvais traitements qui ont été infligés aux personnages auxquels ils se sont identifiés. Et donc, je trouvais ça intéressant de tisser un lien avec un sujet de société à travers le prisme des personnages.
Oui, c'est vrai que dans leur témoignage, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque particulièrement, l'attention qu'ils prêtent aux mauvais traitements. Et d'ailleurs, nous allons écouter leur clip. Merci Madame Haji Souleymane.
Merci Bénédicte, à bientôt.
Voici donc les réactions immédiates des premières du lycée professionnel Jean-Pierre Timbaud, interrogées sur le vif à la sortie de la projection par leur enseignante.
Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ?
Bah, un peu triste.
Ouais.
J'ai beaucoup aimé le film.
Ouais.
J'ai vu comment la Malienne a été maltraitée, tout ça.
Ouais.
Ça m'a touché.
D'accord.
J'ai surtout aimé à la fin. Voilà.
Et quel personnage t'a touché le plus dans le film ?
Le petit garçon.
Moi, je suis la noire.
Pourquoi ?
Parce qu'elle révolte tout le monde.
La dame là qui était en prison.
Elle était séparée de son fils.
Ouais.
Elle n'avait pas de papier.
Le noir, madame.
La femme noire.
Oui.
Pourquoi ?
Parce qu'il était noir.
Bah, le petit garçon.
Le petit garçon ? Et pour quelle raison ?
Et sa mère aussi.
D'accord.
Parce que sa mère, elle a beaucoup.
Elle a fait des efforts pour rester avec son fils en Belgique. Et en plus, il est bien fait. Mais elle a trouvé des difficultés par rapport à la police et tout. Ils ont tapé, ils n'ont pas le droit de porter appel à la dame et tout.
Ça t'a touché, ouais.
Ouais.
D'accord.
Et il tabassait aussi les noirs. Hein.
Il maltraitait les gens.
Ça t'a fait quoi de voir les gens maltraités, justement?
Ouais, ça se fait pas. Ça m'a fait de la peine pour eux.
Ouais.
C'était un beau film, mais trop agressif.
Wow. Ah, tu trouves?
Oui.
D'accord.
Des images trop fortes.
C'est violent. D'accord, okay.
C'est trop violent.
Des images,
Moi, c'est juste la dame qui s'est suicidée. Après, le reste...
Non, moi, le film, il est bien et voilà, il était bien.
Finalement, on remarque à travers les réactions des premières du lycée Jean-Pierre Timbaud qu'ils vont tous au cœur du problème, puisque finalement, ce qui les choque le plus et le propos qui revient le plus, c'est le traitement de l'humain, l'état dans lequel se trouve l'humain que représente Tania, cette mère séparée de son fils, cette mère clandestine qui s'est brûlée le bout des doigts pour ne pas avoir d'empreinte digitale au cas où elle serait arrêtée par la police, et qui, le jour où ça arrive, est envoyée en centre de détention et est donc séparée de son fils et vit seule, sans nom, sans empreinte digitale, sans identité en quelque sorte, sans pays qu'elle avoue, parce qu'elle veut pas qu'on la renvoie. Tania est par excellence l'être humain dans sa position la plus vulnérable. Elle n'a plus rien. On ne la respecte plus. Et c'est pour ça qu'elle est placée dans une situation qui est intolérable et qui, bien sûr, se traduit aussi par des violences physiques, même suggérées, parfois on ne les voit pas à l'écran, qui ont beaucoup marqué ces garçons, cette vulnérabilité totale de l'être humain et cette situation où il ne signifie plus rien. Ces garçons l'ont vécu comme une véritable violence. Fin de la première partie de l'émission française de Fred at School sur le film Illégal. Nous vous retrouvons dans un instant avec les témoignages des élèves du lycée Georges Brassens.
Fred at School Show.
Vous êtes toujours sur Fred Film Radio avec Bénédicte Pro et nous sommes toujours en pleine émission sur le projet Fred at School. C'est la première émission française consacrée au projet et nous parlons aujourd'hui du film Illégal d'Olivier Massé-Depasse. Nous avons entendu plus tôt les témoignages des premières du lycée Jean-Pierre Timbaud qui ont été particulièrement marquées par la violence de la situation que vit Tania, le personnage principal de ce film belge. Tania est une Russe qui vit clandestinement en Belgique, qui parle français et fait de son mieux pour ne pas être remarquée, bien qu'elle ait quelques liens avec la mafia russe pour survivre. Elle élève seule son fils Ivan, et bien qu'elle ait pris toutes les précautions, elle s'est même brûlée le bout des doigts pour ne pas avoir d'empreinte digitale, elle est arrêtée par la police et refuse de dévoiler son nom, de dévoiler son identité et son pays de provenance, de sorte qu'elle est coincée, bloquée dans cette situation d'entre-deux, dans ce centre de détention pour émigrés clandestins. Les premières que nous avons entendues plus tôt ont été donc choquées par la violence de sa situation, mais ils se sont aussi beaucoup identifiés à d'autres personnages, notamment à la Malienne, qui se trouve également au centre de détention et qui ne cesse d'en être évacuée pour être ramenée à son pays, mais d'y revenir, couverte de coups, parce qu'à chaque fois elle lutte et proteste et exerce à l'extrême les limites de sa résistance physique et de ce que peut tolérer la justice belge de mauvais traitements. Il y a aussi bien sûr dans le film le personnage d'Ivan, auquel certains étudiants ont beaucoup pensé, parce que c'est vrai que c'est un personnage qu'on voit peu pendant tout le film, mais qui est très présent dans notre esprit, comme dans l'esprit de sa mère, parce qu'elle lui téléphone constamment et qu'on sait qu'il est là, de l'autre côté de la grille, à attendre sa maman. Il y a un autre personnage intéressant aussi, avec lequel ne s'opère pas d'identification, mais qui est tout de même intéressant, c'est celui de la gardienne de prison, qui a face à elle des détenus qui lui font de la peine et pour lesquels elle ressent de la compassion, mais qu'hélas, elle est obligée de traiter selon les règles qui s'imposent dans ce lieu aussi sinistre et terrible, où on vit très mal, bien qu'elle ne le fasse sans aucun plaisir et qu'elle le fasse parce qu'il faut elle aussi qu'elle nourrisse sa famille. Dans la chambre de Tania, il y a aussi un duo qui est formé par une dame chilienne et par son enfant. Une dame chilienne qui, déjà, est la troisième génération à souffrir énormément. Elle vient d'un pays où déjà les génocides se sont enchaînés et elle-même se dit que le destin a fait que sa génération aussi vivra mal. Et elle regarde sa fille, sa petite fille qui est là avec elle, dans ce centre de détention, avec une énorme tristesse dans le regard. Parce que cette situation d'illégal, de clandestin, de pourchassé, de maltraiter, elle le vit depuis un siècle. Nous allons à présent écouter le témoignage des élèves de Madame Grégoire au lycée Georges Brassens de Paris. Voici donc Agathe, Anaïs, Élodie, Tamara, Thaïs, Yasmine et Léa.
Donc le film regardé en classe, donc il était très intéressant, ça nous a appris beaucoup de choses, mais surtout il était très émouvant. Ce qui m'a le plus touchée, c'est la vie dans le centre de rétention où se trouve la mère, avec le fils qui veut la rejoindre mais qui ne comprend pas vraiment quels en sont les dangers, et on ressent toutes les émotions que la mère ressent lorsqu'elle est dans le centre.
Ce film parle de la peur constante dans laquelle vivent les émigrés qui n'ont pas de papier. Il montre aussi des conditions de vie très difficiles dans lesquelles vivent des femmes et des enfants en prison. L'actrice principale, donc Tania, paraît vraiment désemparée quand on lui demande de prendre l'avion pour la première fois. On dirait un peu une enfant. Elle a un fils qu'elle aime énormément et qui veut la protéger et l'aider en même temps, malgré qu'elle lui demande de ne pas le faire. Et elle est très, très attachée à son pays, son nouveau pays dans lequel elle a émigré. Malgré tout ça, on voit aussi des amitiés et des liens qui se nouent dans la prison avec son ami qui partage sa chambre. Et aussi avec la gardienne qui n'a pas le choix, de faire ce métier pour subvenir aux besoins de sa famille, mais qui n'aime pas ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que après le suicide de son amie, elle se sent coupable et du coup elle arrête de faire ce métier, elle va chercher autre chose.
Donc j'ai beaucoup aimé le film car le sujet est très touchant et le jeu des personnages est émouvant. Par moments c'est assez difficile à comprendre parce que justement le thème, bien qu'il soit d'actualité, on n'en parle jamais vraiment et c'est un peu un sujet tabou. Donc le jeu des personnages est vraiment très très bon. On arrive à rentrer dans le personnage, justement on sent leurs émotions, notamment au point de vue de la mère, enfin qui interprète très bien son rôle. C'est vraiment l'amour maternel et les sujets d'immigration, un peu de la mafia, enfin c'est vraiment un des sujets très complets et
Le film était très intéressant parce que j'ai beaucoup plus appris sur les situations irrégulières.
Alors moi, vu que j'avais déjà vu le film, je connaissais un peu l'histoire. J'avais bien aimé les plans de où il filmait à contre-jour. Et on ressentait vachement les émotions de la mère. Ça nous montrait comment une histoire comme ça peut se passer dans la vraie vie.
Dans le film Illégal, j'ai bien aimé l'histoire parce que je trouve ça pas banal. Après, je trouve qu'il représentait assez bien tout ce qui ne se dit pas sur les centres de rétention, même si tout n'est pas dit. J'ai bien aimé le jeu d'acteur de la mère puisque je trouve qu'elle interprétait vraiment son rôle. On ressentait ses émotions alors que des fois avec d'autres personnages c'était pas le cas. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai pas aimées. Et j'aimais bien comment le réalisateur a mis en scène cette histoire, parce que je trouve que c'est pas quelque chose qui est très facile à monter.
Et j'ai bien aimé les décors, enfin les scènes, les différentes scènes.
C'est un film qui est très bien réalisé et qui est très réaliste.
Et la musique joue un rôle très important dans ce film.
Le passage qui est très émouvant, c'est lorsqu'à la toute fin, elle arrive à serrer son fils dans ses bras. Enfin, c'est les retrouvailles. Ça donne envie un peu de pleurer.
On remarque le sentiment dominant des lycéens après avoir vu le film. C'est un sentiment de tristesse. Ils ont été très affectés par la tragédie que le film raconte. Certains ont même articulé le regret que le film ne soit pas un peu plus positif, même si les relations humaines dans le film, entre Tania et son fils, mais aussi entre Tania et ses camarades de cellule, celle aussi de Tania et les passagers de l'avion qui la sauvent entre guillemets à la fin du film, sont porteuses de chaleur humaine. Du côté des garçons du lycée professionnel, on a même remarqué que la violence ressentie en voyant le film se retournait contre le film lui-même dans leur impression et qu'ils étaient comme en colère contre le film lui-même pour avoir montré une situation qu'ils trouvaient si éprouvante. Du côté des filles du lycée Georges Brassens, c'est la découverte d'une situation qu'elles connaissent mal, celle des clandestins, celle des sans-papiers, qui les a touchées. C'est-à-dire que le film a eu pour elles aussi une fonction documentaire. Nous allons reparler de cela et nous allons reparler de bien plus en troisième partie d'émission où nous accueillerons Frédéric Boyer qui était directeur de la quinzaine des réalisateurs de Cannes quand le film Illégal a été sélectionné. Vous êtes toujours sur Fred Film Radio, nous parlons toujours de Fred at School.
Fred at School Show.
Vous êtes sur Fred Film Radio avec Bénédicte Pro, nous parlons toujours du projet Fred at School et nous sommes en compagnie de Frédéric Boyer en direct de New York qui était directeur de la quinzaine des réalisateurs de Cannes en 2010 quand le film Illégal d'Olivier Macé-Depasse dont nous parlons aujourd'hui a été sélectionné. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Avant de parler du film Illégal, j'aimerais parler un petit peu du programme Fred at School lui-même parce que nous sommes un programme qui a pour but de communiquer la passion du cinéma d'une manière qui permette à des élèves de se forger leur propre regard. Et j'ai lu que vous vous définissiez vous-même comme un passeur. Donc parlez-nous un peu de cet élan qui est devenu en fait central dans votre carrière et dans votre vie.
D'abord, le mot passeur vient pas de moi, mais vient de Serge Danet. C'est Serge Danet qui a un peu réinventé la critique dans les années 80, qui travaillait à Libération et qui a écrit des livres assez extraordinaires, qui a inventé cette expression que je reprends à mon compte.
Quelle est pour vous l'importance de la transmission du cinéma? Je sais que vous-même, vous étiez d'abord un passionné de cinéma, que vous n'avez pas nécessairement suivi des études de cinéma et que c'est vraiment cette passion qui a été votre moteur premier.
Oui, exactement. J'ai pas fait d'études, j'ai pas eu de brevet, pas de bac. D'ailleurs, j'ai pas été à la fac sauf en candidat libre. Et puis, un jour, il y a un ami qui m'a dit « Est-ce que tu veux qu'on ouvre un vidéoclub ensemble ?» Un vidéoclub que vous connaissez, qui s'appelle Vidéosphère, boulevard Saint-Michel à Paris. Et j'ai dit oui. Et puis, c'était très bien pour moi, puisque j'avais vu énormément de films, presque trop. Donc, c'était une façon aussi de me délivrer de tous ces films et de pouvoir, en fait, les acheter, les mettre dans une boutique. Donc, c'est aussi c'est la même question de la passation et de la transmission. Et ensuite, j'étais à la quinzaine en tant que programmateur, enfin dans le comité de sélection, puis après délégué général de la quinzaine. Et programmer, c'est aussi faire partager ses goûts, ses émotions, transmettre. Et ensuite, j'ai été à New York. Et alors là, c'est un petit peu différent parce que c'est une transmission qui se fait à un public qu'on connaît moins ou que je connaissais moins, qui est un public quand même essentiellement américain et new-yorkais. Donc, c'est très intéressant de se confronter à un autre public. Mm-hmm. Et voilà, toute l'affaire de transmission, je pense qu'il faut transmettre, il faut éduquer, mais pas trop. C'est comme quand je travaille à Vidéosphère, il faut jamais dire, prenez ce film, vous allez vraiment beaucoup rire. Il faut jamais survendre un film. Il faut laisser une part de liberté au spectateur. C'est au spectateur presque de dominer, de prendre en compte sa vision et de s'approprier le film. Je pense que c'est bien d'entourer le jeune public, de les éduquer non seulement à l'image, mais aussi à la presse, à la photo, à la politique. Il y a beaucoup de choses qui font le cinéma. Le cinéma, c'est pas que l'image et du son. Il y a un ensemble des choses qui font ce qu'on appelle le cinéma. Donc, je pense qu'il faut jamais trop survendre un film. Il faut avoir, à mon avis, un rapport assez ouvert et parfois contradictoire avec avec son public.
D'autant que c'est vrai qu'on remarque que chez les élèves, il peut y avoir une crainte parce qu'ils peuvent voir le cinéma comme le septième art, comme quelque chose d'un peu massif, qui leur est imposé comme une matière, comme la littérature, comme ça, qui n'est pas alors que c'est une invitation, mais ils pourraient le voir comme un bloc aliénant finalement.
Absolument. Et moi, on m'avait demandé il y a quelques années. Je l'avais fait et on m'avait demandé là très rapidement, on m'a demandé de donner, ils ont demandé à 100 personnes de citer leurs 100 films préférés. Non, pas du tout, de sortir les 100 plus grands films du monde. Et en fait, l'exercice c'est pas du tout intéressant parce que forcément on met Orson Welles, Buster Keaton, ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent. C'est beaucoup plus intéressant de dire quels sont les 100 films que vous préférez. Et c'est pareil pour la transmission, c'est pareil quand je présente un film sur scène à Tribeca ou à la Quinzaine, ou même quand je travaille à Vidéosphère. Finalement, c'est le même travail. C'est je vous propose ce film, ben parce que dedans, il y a cet acteur qui est extraordinaire. Le film, il est ce qu'il est, mais vous allez voir qu'il y a quand même, il faut toujours apporter un point de vue, un angle d'attaque, un angle de prise de film, un film. Et je pense que l'imperfection est aussi une grande qualité dans la vie et aussi dans les films. Donc, et on va parler du film d'Olivier Massé, qui est parfois imparfait, mais qui est fantastique aussi grâce à cette imperfection.
C'est le cas aussi pour les vins, d'ailleurs.
Complètement d'accord. C'est exactement la même chose pour les vins.
Est-ce que dans le cas de vos activités comme délégué général de la Quinzaine ou directeur artistique du festival de Tribeca à New York, vous avez participé à des activités qui concernaient plus spécialement les jeunes?
On invite, il y a des étudiants de Columbia, NYU, on fait, bon, il se trouve que on a un problème dans les festivals, dans le cinéma, qu'on va dire d'auteur, dans le monde entier, c'est le vieillissement du public. C'est-à-dire, le public, c'est un public qui dit en gros, en France, Télérama. Voilà, pour dire, c'est un public, parfois je me moquais, je dis, oh oui, mais c'est un public qui joue au sudoku pendant que vous présentez le film, il y a quelque chose. Bah oui, donc à New York c'est complètement différent parce que le public il a entre 16 ans et 99 ans. Il y a des gens qui arrivent avec leurs planches de skateboard, il y a des punks, il y a des gens qui reviennent d'Irak et c'est des vétérans. Il y a des voilà, c'est un public complètement ouvert et qui est à l'inverse de la Quinzaine, pas un public cinéphile du tout. Et c'est ça qui est assez extraordinaire et c'est ce qui fait que c'est un des publics les plus intéressants pour les metteurs en scène parce qu'ils ont vraiment ce qu'on peut appeler un vrai public avec des questions parfois qui sont naïves mais qui sont vraiment extrêmement positives. Donc, ils ont le problème, les Américains, de un petit peu tout aimer, mais ils ont aussi la qualité d'être complètement optimistes et vraiment d'aller de l'avant et de voir ce qu'il y a de bien dans un film et demander des explications. Ils demandent des explications aux metteurs en scène qui sont plutôt, en général, assez positives.
Est-ce que vous pensez qu'il faudrait insérer, dans le cadre des programmes scolaires, peut-être une initiation à l'image, pas nécessairement que le cinéma, mais peut-être au moins une apprentissage de l'interprétation des œuvres différentes?
C'est indispensable. Il y a quelque chose qui est, on n'y peut rien, mais c'est, la vie est comme ça. C'est que, avec l'arrivée des jeux vidéo, avec l'arrivée de Facebook, Twitter, Vines, oui, on fait aussi un concours de Vines, vous savez, les petits films de 6 secondes. On fait même ça à Tribeca. Il y a un rapport avec la durée du cinéma qu'on a connu, pour moi, dans les années 60, 70, 80 et après. Avant, on voyait un film de 90 minutes entièrement, facilement. Après, pour le jeune public, c'est très difficile de se réhabituer sans penser qu'on va au théâtre ou au cinéma avec un grand C, comme vous disiez tout à l'heure, qu'on aime voir. Un film appartenant au 7e art, c'est rébarbatif, c'est pas intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est justement de faire une approche du cinéma par l'actualité, par la politique, par la photo. Qu'est-ce que le cadre? Qu'est-ce que l'image? Qu'est-ce que la lumière? Qu'est-ce que l'acteur? Qu'est-ce que le langage cinématographique? Et à la fin, qu'est-ce que l'expression cinématographique? qu'il y a plein de gens qui disent au beau cinéma. Non, on voit, ou bien des gens, ils disent, il se trouve qu'il y a aussi autre chose, ce qui se passe dans le monde entier, mais surtout aux États-Unis, j'en suis la première victime, c'est l'addiction aux séries télé, et j'aime beaucoup, hein. Je suis addicté à Girls, je vois toutes les choses. Ça m'intéresse. Mais c'est comme, Girls, c'est bien, mais c'est comme regarder Closer, quoi. On tourne les pages et c'est sympa, j'aime bien. De temps en temps, l'aéroport, regarder Closer, c'est pas, mais on a une approche, qui n'est pas le cinéma. C'est un livre ouvert, très très bien fait, et c'est de la production. Et je suis ravi, et ça me détend, et j'aime bien, et j'aime beaucoup. Mais c'est bien la différence, et je trouve que, pour parler un petit peu, d'être un peu plus pessimiste, c'est que le cinéma, au fur et à mesure, disparaît. Et heureusement qu'il reste des festivals comme Cannes. Il se trouve que Cannes est le festival des festivals, comme on l'appelle, le plus grand festival du monde. Mais c'est aussi le festival qui met en compétition Happy Chapong, Véré Sakalatoul, qui honore les Dardennes, qui honore Moretti, qui honore des grands cinéastes du monde entier qui viennent à Cannes pour leur premier mondial. Et c'est souvent eux qui sont en palmarès. Heureusement qu'il y a un festival comme Cannes pour honorer ce qu'est l'esprit du cinéma.
Absolument. Nous allons parler plus particulièrement d'un des films qui donc avait été repéré à Cannes, qui est donc le film Illégal d'Olivier Massé de Passe, dans la quatrième partie de l'émission française liée au programme Fred at School. Vous êtes sur Fred Simelio avec Bénédicte Pro et Frédéric Boyer. Fred at School Show. Vous êtes toujours sur Fred Film Radio, vous êtes toujours avec Bénédicte Pro et nous dialoguons avec Frédéric Boyer qui donc avait sélectionné le film Illégal en 2010 à la quinzaine des réalisateurs de Cannes. Merci d'être avec nous. Donc ce film Illégal d'Olivier Massé de Passe, c'est une production franco-belgo-luxembourgeoise, mais c'est vrai qu'il se rattache, il est directement dans la lignée d'un cinéma réaliste belge qu'on fait toujours logiquement remonter au cinéma des frères Dardenne. Et c'est vrai qu'il ressort des témoignages des élèves qui ont vu le film, qu'il a eu une fonction documentaire. Beaucoup ont dit « j'ai beaucoup appris ». Et il y a certains d'entre eux, des élèves de banlieue, qui peut-être étaient plus concernés directement par la situation des sans-papiers, qui se sont inquiétés, qui disaient « est-ce que c'est vraiment comme ça ?» Est-ce que vous pensez que cette fonction documentaire qu'a le film, qui donc joue entre la frontière, entre fiction et documentaire, est-ce qui fait son importance ?
Ah ben c'est pour ça que j'aime le film, c'est pour ça qu'il a été remarqué, c'est aussi pour ça que les Belges ont choisi ce film pour représenter la Belgique aux Oscars en 2011. Le film, moi je l'ai présenté en 2010. Il y a quelque chose de particulier que j'aime beaucoup dans le film, c'est que ça utilise les outils de documentaire avec la caméra portée, l'observation, le réalisme, je dirais même presque l'hyper-réalisme, mais ça utilise aussi les outils du cinéma traditionnel, notamment le thriller, le montage, le rythme, la construction. Donc c'est pas du tout un film contemplatif, mais il y a autre chose de plus important dans le film. C'est que c'est un film, c'est un témoignage, c'est pas un film qui juge. Et il se trouve, il y a des gens qui ont critiqué aussi le film, c'est pas mon cas, hein, en pensant qu'on n'avait pas assez d'empathie pour le personnage. Mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est de pas trouver le personnage spécialement sympathique. On va dire, on disait à une époque en France, une fiction de gauche, ce n'est pas une fiction de gauche, bien que le film se positionne évidemment pour les sans-papiers et montre une réalité qui est très difficile. Donc les deux points très importants, le premier point, c'est que ça montre l'histoire de cette femme, mais d'une façon pas spécialement sympathique, et c'est donc la description, et c'est d'ailleurs assez troublant. Et et le deuxième point qui est l'opposé de ça, qui est, je dirais, la glamourisation, la façon de filmer une femme extraordinaire, qui est Anne Cossens. Évidemment, il y a certains films comme General Hans dans les films de Cazavetes qui tiennent aussi par la qualité de leur interprète et de leur interprète féminine. Et elle, effectivement, c'est aussi, il y a le travail sur l'actrice et ce qu'elle fait dans le film, et il y a le film. Donc c'est l'intrusion d'une femme, comme à peu près les films d'Ardenne, et comme Jérémy Régnier arrivait dans La Promesse à l'époque, ou bien dans Rosetta, comme elle s'appelle, la jeune fille de Rosetta.
Émilie Dequen.
Voilà, Émilie Dequen, ils ont réussi à filmer la femme, une femme, la placer dans un espace qui est un peu un espace documentaire. Et ça, je trouve ça très fort.
C'est vrai ce que vous dites, en tout cas, on voyait que les élèves s'identifiaient pas nécessairement au personnage principal. Il y en a beaucoup quand même qui ont été touchés par elle. il y a une petite élève qui avait dit elle est comme un enfant, elle est vulnérable. Mais c'est vrai que on a aussi bien qu'on suive son silence, on est dans le même silence qu'elle, on est placé dans la même situation qu'elle, dans sa temporalité, dans son quotidien difficile, mais elle est tellement recroquevillée, coupée du monde, que même si on vit cette situation, on n'arrive pas complètement à accéder à ce personnage.
Exactement, c'est exactement ça, et c'est la différence entre le cinéma et les risques du cinéma et la télévision. Mmh. Je pense qu'un scénario comme celui-là, j'imagine, j'en sais rien, il n'a pas été fait, mais la même chose, le même film, le même scénario n'aurait été a priori pas possible pour une télévision, une diffusion à la télévision à grande écoute, parce que justement, il n'y a pas de pathos dans le film, il n'y a pas d'outrance. Elle est recroquevillée, donc ça montre, c'est vraiment la point de vue d'un cinéaste. Et Olivier Massé-Despace est un cinéaste, donc il a. Moi, j'aime bien les cinéastes qui décident quelque chose. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais qui ont un point de vue et qui décident d'aller là où ils veulent aller. Et c'est vraiment son cas. Et ça en fait un film fort, ça en fait un film personnel, ça en fait un film engagé, pas seulement évidemment politiquement, mais engagé du point de vue de l'artiste et du point de vue du cinéaste.
Mais c'est vrai que cette déshumanisation, si elle a pu beaucoup choquer les gens et donc entraîner une empathie, cette déshumanisation, parce qu'elle a pas de nom, on sait pas vraiment d'où elle vient, on sait pas pourquoi elle fait ce qu'elle fait, on sait pas ce qu'elle croit qu'elle fait, on sait pas pourquoi elle a quitté son pays. Et on la retrouve aussi dans le titre « illégal ». C'est marrant, ça, les élèves ne l'ont pas remarqué. C'est un titre qui est un adjectif au masculin singulier, donc c'est pas illégal au féminin. Il y a ce côté impersonnel. Qui m'interrogeait.
Oui, exactement. Il y a un côté impersonnel. Moi, j'ai parlé avec lui. J'ai pas revu le film depuis donc 4 ans. Et puis Olivier, je l'ai pas revu aussi depuis 4 ans. Mais je me rappelle très bien qu'on a eu des longues conversations. Et c'était vraiment son idée aussi de presque déshumaniser, de pas rendre trop de sensibilité, de pas trop prendre parti, de montrer des faits qui ont été d'ailleurs au moment où c'était en France. Là, c'était une histoire vraie. De montrer des faits, et il y a quand même, je me rappelle, c'est assez intéressant parce qu'il travaille pas l'acteur, en tout cas Anne Cossin, s'il la travaille d'une façon un peu à la, on va dire, exagérer un peu, mais un peu à la Bergman dans Stromboli, quoi, une sorte de, il magnifie un peu cette femme qui est Anne Cossin, et puis l'autre, effectivement, il y a assez peu de choses sur elle, mais les situations, par contre, sont très cinématographiques. Je me rappelle qu'à la fin, quand il me semble qu'il y a la scène où il y a les voyageurs de l'avion se lèvent et tout ça, je me rappelle qu'à la quinzaine, tout le monde se levait, tout le monde, c'était comme des enfants de 5 ans qui étaient à Guignol. Donc il y a aussi l'utilisation du cinéma comme arme, enfin comme arme, comme avec le travail de montage, le travail de la dramaturgie, comme ça, mais il n'est pas obligé de faire un ensemble, de montrer d'où elle vient, quels sont ses problèmes et le pourquoi, du comment. Non, la situation, c'est qu'elle n'a pas de papier et qu'elle veut s'en sortir. Donc c'est une situation qui est brutale, qui est factuelle, ce sont des faits. Après, on peut faire un film qui fait 3 heures en expliquant la famille. Non, il a pas voulu faire ça. Donc il a voulu limiter son film dans la durée, il a voulu limiter l'action, puis il a voulu aussi, il faut aussi parler du cinéaste, il a voulu aussi montrer, filmer tous ces gens avec une caméra qui est très proche, mais qui n'est pas envahissante.
Qui se cache souvent derrière des objets.
Exactement. Qui est cachée, qui est vivante, et c'est comme si le cinéaste volait des scènes. Et c'est intéressant puisque, évidemment, il vole non pas des scènes du réel, mais il vole des scènes de la fiction. C'est-à-dire qu'il fait jouer des gens, il tourne. Je pense que le film à l'époque était déjà tourné en digital, en vidéo. Donc je pense qu'il prend. Et il essaye de prendre une vérité. Ben, le cinéma, c'est une des définitions du cinéma, c'est la captation de la vérité. Donc il attrape une vérité. Il a dû en tourner énormément, et après, il faut voir, il faut vraiment dire, et c'est ça qui est important, il faut que les élèves, je dirais pas le comprennent, mais arrivent à comprendre que le film se fait en deuxième partie dans la salle de montage. Mmh. Et il faut vraiment faire venir des monteurs qui expliquent exactement comment on fait un film, parce que vous avez des 900 heures de rush, et vous arrivez à 90 minutes. Donc vous gardez 10% sur l'ensemble, 900, peut-être pas 900, mais vous avez comme beaucoup, beaucoup d'heures de rush, et après il y a un choix. Il y a un choix de plan, il y a un choix de tempo, et puis il y a la musique, il y a tout ce qui fait le rythme du film, et puis le choix des scènes. Donc ça, c'est là où le cinéaste, d'ailleurs pas tout seul, et avec le monteur, a ce deuxième travail de création. Moi, j'ai vu énormément de films qui étaient vraiment, qui avaient des gros problèmes, qui avaient ce qu'on appelle des ventres mous, des problèmes de structure.
Ouais.
après un remontage, après élaguer, après enlever 8 minutes, après retourner, le film est différent. C'est ouais. vraiment comme un bon maquillage, un mauvais maquillage. C'est-à-dire que la magie du cinéma, c'est ça. La différence entre le cinéma et le théâtre, c'est aussi ce travail dans la salle de montage et en post-production.
C'est vrai que là, on sent vraiment la main du réalisateur, parce que c'est finalement cet effet de tiraillement dont on parlait vis-à-vis du personnage, pour lequel on a et de l'empathie et en même temps une forme de défiance, entre l'hyper-réalisme et en même temps le fait qu'on est un peu à dire que la caméra se cache, qu'on est... Et finalement, cette position de tiraillement, probablement, a contribué à une réaction chez les élèves qui était de trouver le film trop violent. En fait, certains l'ont trouvé trop violent, à la limite de l'intolérable, alors qu'on voit pas en vrai, par exemple, les moments les plus durs, comme le suicide de la malienne en prison, où on voit les conséquences de ça, mais on voit jamais vraiment le moment de la violence. Donc, c'est ce travail qui a créé, je pense, cette émotion forte.
Oui, exactement. Et bon, c'est intéressant parce que c'est un cinéaste qui sait très très bien filmer les femmes, mais qui est très masculin. Il y a une masculinité dans son cinéma, mais comme Tarantino était un cinéaste masculin qui sait très bien filmer les femmes, hein. Il y a pas donc, mais c'est vrai que le même sujet tourné par une femme serait pas pareil. Il a besoin quand même, il y a une sorte, il y a une violence, il y a une énergie, il y a une testostérone, je dirais, dans sa façon de filmer, qui rend aussi le film unique. Et ça, c'est une définition. Plutôt que choisir un peu de ci, un peu de ça, de faire un film qui est un peu consensuel et on parle, il veut pas parler des sans-papiers, il fait un film de cinéma. Donc c'est pas un film sûr, c'est un film, c'est de lui qu'il parle aussi, comme tous les cinéastes, je pense, c'est de lui-même qu'il parle.
En tout cas, bon, c'est un film, c'est vrai, qui parle à tout le monde et qui est très contemporain. Et c'est aussi un peu le but de notre programme. On propose des films sélectionnés dans le cadre du prix Lux du Parlement européen. Donc, des films actuels, européens, qui abordent des thèmes vifs. Et c'était un peu une des missions, une des choses qui vont permettre d'attirer les élèves et de les motiver, de les stimuler dans leur découverte du cinéma.
Ouais, mais bravo à vous de passer ce type de film. De temps en temps, des enseignants passent des grands films de l'histoire du cinéma que j'aime beaucoup. Mais la connexion avec notre monde réel, avec le jeune public, est beaucoup plus difficile parce que c'est comme si vous regardez un tableau de Botticelli, on peut être saisi par la beauté, mais il y a l'apprentissage de, ou bien vous regardez un tableau de Duchamp. On peut regarder une œuvre, mais parfois quand l'œuvre est tellement monumentale, on a besoin d'outils qui sont des outils quasiment éducationnel, alors que l'approche d'un film que le film d'Olivier Macédépa, bah, c'est illégal, est beaucoup plus facile parce qu'on peut parler des outils du cinéma sur quelque chose d'un sujet qui est complètement contemporain.
Mais absolument.
C'est plus facile. Bravo
absolument.
À vous.
Absolument. Eh ben, en tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir discuté avec nous aujourd'hui, Frédéric Boyer. Merci.
Vous êtes toujours sur Fred Film Radio. Nous parlons toujours du projet Fred at School et nous allons être rejoints pour la dernière partie de l'émission par Christelle Oscar, programmatrice chez Haut et Court, le distributeur français du film Illégal. À tout de suite.
Fred at School Show.
Vous êtes sur Fred Film Radio, Bénédicte Pro, pour la cinquième et dernière partie de notre émission consacrée au programme Fred at School. Nous sommes en présent en ligne avec Christelle Oscar de la société de distribution Haut et Court qui s'est occupée en 2010 du film Illégal. Bonsoir Christelle.
Bonsoir.
Alors d'abord, pour nos auditeurs, surtout les jeunes auditeurs qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu ce qu'est le rôle du distributeur ?
Oui, le distributeur, c'est un intermédiaire. Il a un rôle de passeur. C'est l'intermédiaire entre un producteur et son réalisateur et le public. Donc entre ces deux entités, le travail du distributeur va être de donner de la notoriété à un film. Mais au préalable, il aura acheté les droits, donc il aura fourni une certaine somme d'argent à un producteur pour qu'il finisse de monter son film, enfin pour qu'on contribue au financement, et en contrepartie, avec les droits, on en fait entre guillemets ce qu'on veut. Mais ce qu'on veut, c'est le sortir en salle le plus intelligemment possible. Voilà. On peut acheter au producteur les droits vidéo, mais nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, on les revend à un éditeur vidéo. Mais certains distributeurs sont éditeurs vidéo.
Combien de films distribuez-vous par an ?
On a une dizaine de films par an, à peu près, un tout petit peu moins d'un par mois.
Dans le cas d'un film comme Illégal, sur combien de copies est-il sorti ?
illégal, il est sorti sur, sur 70 salles France, 70 copies on dit.
Et le nombre des copies restait constant du lancement du film à la fin de sa carrière dans les...
Non, jamais. La carrière d'un film, en fait, va décroissance au niveau des copies. Alors, il y a la première semaine, un certain nombre. Là, on devait être en première semaine à une soixantaine. En deuxième semaine, on avait un petit peu augmenté le nombre de copies. Et puis après, en général, ça décroît. Le pic d'affluence se fait quasiment sur la première semaine d'exploitation. Après, ça ne fait que décroître.
Et comment vous choisissez les films chez Haut-et-Court ?
On les choisit un petit peu au feeling. Enfin, on a une, comme toutes les sociétés, on a une ligne éditoriale, on a une sensibilité, on a des personnalités différentes, mais on va tous plus ou moins dans le même sens et on choisit des films, alors on choisit des films d'auteur essentiellement, des films qui nous touchent, des films qui nous ressemblent, qu'on va savoir sortir en fait. On va rarement sur quelque chose qui nous correspond pas et dont on va pas savoir quoi faire. Donc c'est assez, c'est quelque chose d'assez sensible au départ. Mais on a plus globalement une politique de découverte de jeunes auteurs de toute manière et des auteurs qu'on a envie d'accompagner. Donc dans notre longue vie de distributeur, parce qu'on est une société qui a quand même 23 ans, on a accompagné beaucoup de jeunes réalisateurs à l'époque qui s'appelaient Bertrand Bonello, Abderrahmane Sissako, Laurent Cantet, Céline Sciamma. On a eu beaucoup de premiers films. C'est pas une obligation de continuer à travailler systématiquement avec ces réalisateurs-là. Des fois, on se quitte, on se retrouve. Enfin, rien n'est écrit, quoi. Par contre, quelqu'un comme Laurent Cantet, on l'a produit et distribué depuis le début.
Et donc, quand vous avez choisi le film Illégal d'Olivier Massé-Depasse, l'idée, j'imagine, était de soutenir un jeune réalisateur prometteur ?
Oui, tout à fait. Même si Olivier avait déjà quelques réalisations à son actif, il avait déjà fait un long métrage. Illégal, on a dû l'acheter comme on fait très souvent sur scénario. C'était déjà un scénario qui était très fort, qui avait un sujet. Et ça, c'est très important, un film avec un sujet. Parce que c'est un film qui présente un point d'accroche pour un travail de fond dans les salles de cinéma à terme. On ne va pas forcément travailler l'objet cinématographique, mais aussi le sujet qu'il traite. Dans le cas d'Illégal, il y a quand même un gros travail avec les associations de défense des sans-papiers qui a pu se faire en parallèle, donc avec des débats, des rencontres, etc. Tout un autre travail parallèle s'est mis en place. Mais donc, pour revenir à la question du choix du film d'Olivier Massé-Depasse, c'était la question de ce sujet, et puis c'était surtout que ça a été une claque émotionnelle. Et puis quand le film a été fini et qu'il nous l'a montré, on était tous complètement scotchés. C'est un film qui a une grande force à ce niveau-là. Émotionnellement parlant, d'ailleurs, quand je repense, c'est un peu loin maintenant, c'était en 2010, mais quand je repense quand le film a été montré à la quinzaine des réalisateurs, c'est vrai que ça s'est passé également comme ça, quoi. L'émotion était là dans la salle et il y a eu ce qu'on appelle un gros buzz sur le film à ce moment-là. Beaucoup de professionnels, beaucoup d'exploitants, de programmateurs de salle l'ont vu dans ce cadre-là. L'émotion était palpable dans toute la salle, et c'est aussi ça qui a aidé à travailler le film après, au moment de sa sortie au mois d'octobre, donc quelques mois après Cannes. Ça nous a beaucoup aidé, on s'est beaucoup appuyé là-dessus parce que ça existait, quoi. C'était quelque chose, la communion dans la salle était déjà là à ce moment-là, quoi.
Et en effet, Frédéric Boyer m'a dit qu'il avait vu des gens se lever au moment où les gens dans l'avion se lèvent pour soutenir Nadia.
Oui, tout à fait. Oui. Cette scène est arrivée à plusieurs reprises dans la vie réelle. D'ailleurs, je me souviens que pas longtemps après, Laurent Cantet, justement, dont on parlait tout à l'heure, a été témoin d'une scène comme ça dans l'avion qui le ramenait de Cuba, je crois. Enfin, pareil, des gens se sont opposés à l'enlèvement d'une personne sans papier qui était à bord. Ouais.
Et quelles autres grandes émotions alors nous préparons et cours pour cette année dans les cinémas français?
Très bientôt, la semaine prochaine, Voyage en Chine, le premier film de Zoltan Meyer avec Yolande Moreau, un film tourné essentiellement en Chine. Mm-hmm. Et puis nous aurons le 13 mai Refugiado de Diego Lerman. Mm-hmm. Et enfin, un documentaire qui s'appelle Parole de kamikaze au mois de juin, un témoignage d'un recruteur de kamikaze pendant la guerre au Japon contre les États-Unis. Donc un témoignage assez rare. Ah voilà, oui. Et puis plus tard, on aura dans le courant de l'année Le Combat Ordinaire, l'adaptation de Manu Larsenet, de la BD de Manu Larsenet avec Nicolas Duvauchel, The Lobster aussi de Yorgos Lanthimos, réalisateur grec. Voilà, pas mal de choses très très excitantes.
En effet, c'est tout un programme. En tout cas, je vous remercie de nous avoir accordé ces quelques mots, Christelle Oscar. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Nous arrivons au terme de la première émission française dédiée au projet Fred at School. Nous remercions les premières du lycée Jean-Pierre Timbaud, leur professeur Madame Agi Souleymane. Nous remercions la classe du lycée Georges Brassens, de Madame Grégoire. Nous remercions Frédéric Boyer, ainsi que Christelle Oscar de la société distribution Haut et Court. Et merci à vous les auditeurs d'avoir écouté cette émission. Vous êtes sur Fred Film Radio, la radio du cinéma vivant.